Dans cet extrait du chapitre 14 du livre premier des essais, que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de l'opinion que nous en avons, Montaigne se demande si l'on peut vraiment mépriser la douleur. Les hommes, dit une sentence grecque ancienne, sont tourmentés par les opinions qu'ils ont des choses, non par les choses elles-mêmes. Il y aurait un grand point gagné pour le soulagement de notre misérable condition humaine qui pourrait établir cette proposition vraie partout. Car si les maux n'ont entré en nous que par notre jugement, il semble qu'il soit en notre pouvoir de les mépriser ou contourner à bien. Si les choses se rendent à notre merci, pourquoi ne les accommoderons-nous pas à notre avantage? Si ce que nous appelons mal et tourment n'est ni mal ni tourment de soi, ainsi seulement que notre fantaisie lui donne cette qualité, il est en nous de la changer. Et ayant le choix, si nul ne nous force, nous sommes étrangement folles de nous bander pour le parti qui nous est le plus ennuyeux et de donner aux maladies, à l'indigence et au mépris un aigre et mauvais goût, si nous ne leur pouvons donner bon, et si la fortune fournissant simplement de matière, c'est à nous de lui donner la forme. Or, que ce que nous appelons mal ne le soit pas de soi, ou au moins tel qu'il soit, qu'il dépende de nous de lui donner autre saveur et autre visage, car tout revient à un, voyons s'il se peut maintenir. Oserons-nous dire que cet avantage de la raison, de quoi nous faisons tant de fêtes, et pour le respect duquel nous nous tenons maîtres et empereurs du reste des créatures, ait été mis en nous pour notre tourment? L'intelligence qui nous a été donnée pour notre plus grand bien, l'emploierons-nous à notre ruine, combattant le dessein de nature et l'universel ordre des choses, qui porte que chacun use de ses outils et moyens pour sa commodité? Bien, me dira-t-on, votre règle sert à la mort, mais que direz-vous de l'indigence? Que direz-vous encore de la douleur? Que Aristippe, Hieronymus et la plupart des sages ont estimé le dernier mal, et ceux qui le niaient de parole le confessaient par effet. Posidonius, étant extrêmement tourmenté d'une maladie aiguë et douloureuse, Pompée le fut voir et s'excusa d'avoir prieur si importune pour l'ouïr de viser de la philosophie. « Ah, Dieu le plaise, lui dit Posidonius, que la douleur gagne tant sur moi qu'elle m'empêche d'en discourir et d'en parler. » Et se jeta sur ce même propos du mépris de la douleur. Mais cependant elle jouait son rôle et le pressait incessamment. À quoi il s'écriait « Tu as beau faire, douleur, si ne dirais-je pas que tu sois mal, ce conte qu'ils font tant valoir, que porte-t-il pour le mépris de la douleur? Il ne débat que du mot. Et cependant, si ses pointures ne l'émeuvent, pourquoi en rompt-il son propos? Pourquoi pense-t-il faire beaucoup de n'appeler pas mal? Ici, tout ne consiste pas en l'imagination. Nous opinons du reste, c'est ici la certaine science qui joue son rôle. Nos sens mêmes en sont juges. Si nos sens ne sont pas véridiques, tout notre raisonnement doit aussi être faux. Ferons-nous à croire à notre peau que les coups des trivières la chatouillent, et à notre goût que l'aloès soit du vin de grave? Le pourceau de Piron est ici de notre écho. Il est bien sans effroi à la mort, mais si on le bat, il crie et se tourmente. Forcerons-nous la générale habitude de nature, qui se voit en tout ce qui est vivant sous le ciel, de trembler sous la douleur? Les arbres même semblent gémir aux offenses qu'on leur fait. La mort ne se sent que par le discours, d'autant que c'est le mouvement d'un instant. Où elle a été, où elle viendra, il n'y a rien de présent en elle. la mort est moins terrible que l'attente de la mort. 1000 bêtes, 1000 hommes sont plutôt morts que menacés. Et à la vérité, ce que nous disons craindre principalement en la mort, c'est la douleur, son avant-coureuse coutumière. Toutefois, s'il en faut croire un Saint-Père, la mort n'est un mal que par ce qui vient après elle. Et je dirais encore, plus vraisemblablement, que ni ce qui va devant, ni ce qui vient après, n'est des appartenances de la mort. Nous nous excusons faussement, et je trouve par expérience que c'est plutôt l'impatience de l'imagination de la mort qui nous rend impatients de la douleur, et que nous la sentons doublement grièvre de ce qu'elle nous menace de mourir. Mais la raison accusant notre lâcheté de craindre chose si soudaine, si inévitable, si insensible, nous prenons cet autre prétexte plus excusable. Tous les maux qui n'ont autre danger que du mal, nous les disons sans danger, celui des dents ou de la goutte, pour grief qu'il soit, d'autant qu'il n'est pas homicide, qui le met en compte de maladie? Or bien, présupposons-le, qu'en la mort nous regardons principalement la douleur, comme aussi la pauvreté n'a rien à craindre que cela, qu'elle nous jette entre ses bras par la soif, la faim, le froid, le chaud, l'éveil, qu'elle nous fait souffrir. Ainsi n'ayons affaire qu'à la douleur. Je l'ordonne que ce soit le pire accident de notre être, et volontiers, car je suis l'homme du monde qui lui veut autant de mal et qui la fuit autant pour jusqu'à présent n'avoir pas eu, Dieu merci, grand commerce avec elle. Mais il est en nous, sinon de l'anéantir, au moins de l'amoindrir par la patience. Et quand bien le corps s'en émouvrait, de maintenir ce néanmoins l'âme et la raison en bonne trempe. Et s'il ne l'était, qui aurait mis en crédit parmi nous la vertu, la vaillance, la force, la magnanimité, la résolution? Où jouerait-elle le rôle, s'il n'y a plus de douleur à défier? La vertu est avide de danger. S'il ne faut coucher sur la dure, soutenir armée de toutes pièces la chaleur du soleil, se paître d'un cheval et d'un âne, se voir détaillé en pièces et arracher une balle d'entre les os, se souffrir, recoudre, cautériser et sonder par où s'acquerra l'avantage que nous voulons avoir sur le vulgaire. C'est bien loin de fuir le mal et la douleur, ce que disent les sages, que des actions également bonnes, celle-là est plus souhaitable à faire, où il y a plus de peine. Ce n'est pas dans la gaieté, ni les plaisirs, le rire et les jeux, compagnons de la frivolité, qu'on trouve le bonheur, mais dans la fermeté et la constance, malgré la tristesse. Et à cette cause, il a été impossible de persuader à nos pères que les conquêtes faites par vive force, au hasard de la guerre, ne fussent plus avantageuses que celles qu'on fait en toute sûreté par pratiques et menées. La vertu est d'autant plus agréable qu'elle nous coûte davantage. Davantage, cela doit nous consoler. Que naturellement, si la douleur est violente, elle est courte. Si elle est longue, elle est légère. Tu ne la sentiras guère longtemps si tu la sens trop. Elle mettra fin à soi ou à toi. L'un et l'autre revient à un, si tu ne la portes, elle t'emportera. Souviens-toi que les plus grandes douleurs sont terminées par la mort, que les petites ont de nombreux intervalles de repos, que nous sommes maîtres des moyennes. Si donc elles sont supportables, endurons-les. Sinon, quittons la vie si elle nous déplaît comme un théâtre. Il n'y a raison, ni prescription, ni force qui puisse contre son inclination et son choix. De tant de milliers de billets qu'elle a en à sa disposition, donnons-lui-en un propre à notre repos. Et conversation, nous voilà non couverts seulement de toute offense, mais gratifiés même et flattés, si bon lui semble, des offenses et des maux. Elle fait son profit de tout indifféremment, L'erreur, les songes lui servent utilement, comme une loyale matière, à nous mettre à garant et en contentement.